Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Au micro, Renaud Grégoire, c'est un plaisir de se retrouver cette semaine et nous sommes à Ottawa pour rencontrer le frère Louis Roy qui a écrit un excellent livre, « L'expérience de Dieu, de la psychologie à la mystique » et nous avons la chance de l'avoir avec nous. Bienvenue, frère Louis Roy.
Merci. Bonjour.
Alors, frère Louis Roy, vous êtes dominicain. Parlez-nous de votre parcours comme enseignant et comme auteur.
J'ai toujours voulu écrire. Quand j'étais adolescent, je pensais écrire un roman. J'avais même choisi un pays et puis j'ai jamais commencé. Mais j'ai eu la chance d'avoir des amis et de constituer quand j'étais vers l'âge de 16 ans, 15-16 ans. Nous étions un petit groupe d'artistes, de littéraires. Un était spécialisé un peu dans les films, puis on échangeait beaucoup. Alors, c'est ainsi que j'ai écrit des poèmes et puis écrit aussi quelques articles dans le journal du Collège Garnier à Québec, journal au Collège Garnier des Jésuites. Et puis, j'ai toujours écrit, j'ai beaucoup écrit.
Mais vous êtes dominicain, donc vous avez choisi quand même un aspect un peu particulier de la vie religieuse, donc c'est ce côté de recherche, de spiritualité, d'éclairage à la manière de Saint-Dominique.
Oui, c'est ça, oui, exact.
Frère Louis, vous avez publié donc « L'expérience de Dieu, de la psychologie à la mystique » chez Mediapol, et vous annoncez vous concentrer sur la spiritualité, la méditation, la mystique. Et ces trois termes qui ne sont pas toujours très clairs. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer comment vous avez défini la spiritualité, la méditation et la mystique?
Commençons par la spiritualité et je vais vous offrir quelques commentaires sur le tout début de l'introduction du livre à la page 7. Donc, spiritualité, d'ailleurs très populaire aujourd'hui, quand on pense à la racine étymologique, c'est l'esprit, hein, spiritualité, l'esprit humain, et que certaines personnes, beaucoup de personnes, découvrent en eux, surtout à l'adolescence et peut-être parfois plus tard. Donc, la spiritualité, c'est spiritus, l'esprit humain. Et le grand maître de la spiritualité, j'ai découvert ça plus tard, c'est saint Augustin. Il dit « Entrez en vous-même ». Alors là, connaissez-vous vous-même et puis connaissez Dieu à la même temps. « Que je vous connaisse, dit-il à Dieu dans les confessions, et que je me connaisse. » Ça marche ensemble pour lui. Et pour connaître Dieu, il dit, une fois qu'on est à l'intérieur de la spiritualité ou de son esprit humain intéressé par la spiritualité, c'est monter à l'intérieur vers Dieu. L'Esprit Saint nous fait monter vers lui. Alors, il y a différentes... quelques étapes dans cette connaissance de soi. Tous ceux qui sont intéressés par la spiritualité montent, mais souvent, ils rencontrent ce qu'ils pensent être le divin. C'est un grand tout impersonnel. D'autres découvrent un Dieu personnel. Alors, il y a une bifurcation là, mais moi, je fais partie d'un groupe de croyants catholiques qui ont beaucoup d'estime pour ceux qui découvrent le divin, tandis que d'autres s'opposent à ça. C'est comme une espèce d'hérésie, c'est comme une espèce de mauvaise voie. Et ils ne voient pas du tout que c'est quand même quelque chose qui est bien. Et même, je dirais, comme théologien, c'est inspiré par l'Esprit-Saint. Donc, alors voilà pour spiritualité. Méditation, c'est l'application d'une méthode pour rester avec Dieu et non pas simplement se mettre en prière, mais utiliser une méthode. Moi, j'utilise la méthode de la concentration développée par des trappistes américains depuis 1976. J'ai jamais changé. J'ai toujours été satisfait et c'est basé sur la respiration. Donc, quand on inspire physiquement, on inspire le bon esprit, on inspire la présence de Jésus, ou encore quand on expire, on laisse aller les choses négatives en nous, l'attachement au moi et le manque de détachement et tout ça. Donc ici, méditation, ma façon de le comprendre, ce n'est pas la méditation au sens médiéval dont on pourra parler plus tard peut-être, mais en son sens contemporain que je viens d'expliquer, la méditation. Il y a des méthodes aussi basées sur la respiration dans l'Est. Les chrétiens de l'Est, surtout russes et grecs, et c'est toujours basé sur la respiration. Vous avez ça aussi chez les bouddhistes. Alors finalement, moi, je suis en faveur d'une méthode. Chacun doit trouver sa méthode. Mais je connais aussi des gens qui même des théologiens, qui disent non à cela. Non, non et non. C'est l'Esprit Saint qui vous guide, mais il n'y a pas l'idée d'une collaboration avec une méthode. Alors, quel est le troisième terme? La mystique. C'est cette prière basée sur la présence de Dieu, poussée au maximum. Donc, un mystique, c'est pas strictement différent de quelqu'un qui n'est pas mystique, mais qui est une personne de prière. Mais parmi ces personnes de prière-là, il y en a qui ont ce que j'appelle le charisme, au sens de Saint Paul, c'est-à-dire le don. De la mystique. Tout le monde n'est pas appelé à être mystique. Et là, c'est une thèse que j'ai dans un long manuscrit en anglais où je suis dans une minorité de théologiens. Beaucoup pensent que tout le monde, tous les baptisés, sont invités à être mystiques. Je ne crois pas que c'est vrai. Et puis, j'explique dans mon manuscrit, je ne le ferai pas aujourd'hui, pourquoi il y a des gros inconvénients avec cette idée-là. Tout le monde est appelé. Ça peut être désastreux. Je me sens appelé, mais en fait, je ne suis pas appelé, donc je suis coupable. Et puis alors, c'est une voie qui est peut-être assez, assez dangereuse.
En effet, mais c'est très intéressant que vous mettiez vraiment en évidence, que vous expliquiez ces termes, donc spiritualité, qui est vraiment se rencontrer et rencontrer Dieu, si j'ai bien compris, Et c'est intéressant que vous parliez, frère Louis, de Saint-Augustin, puisqu'on entend de plus en plus parler, on retrouve Saint-Augustin avec le pape Léon XIV.
Ah oui.
Vous avez parlé de la méditation, d'une méthode, et aussi que tous ne sont pas appelés à être mystiques, mais tous peuvent prier. C'est une différence.
Ah ben oui. C'est même une obligation.
C'est une obligation.
Si vous voulez être chrétien. Et puis, mais c'est intéressant de voir que chez les bouddhistes et bien des hindous, Il n'y a pas de prière. Ils ne demandent rien. Ils sont simplement présents à une présence avec un grand P. Voyez-vous? Et là aussi, j'ai de l'estime pour ça. Et puis, je suis intéressé, moi, particulièrement au bouddhisme. Et plus particulièrement parce que le bouddhisme, c'est comme le catholicisme, c'est très varié. Le bouddhisme japonais, ce qui m'a amené à passer 3 mois au Japon pour écouter et puis pour absorber cette grande tradition qu'ils ont.
Alors, frère Louis Roy, quelles sont les parties, disons, majeures de votre ouvrage « Expérience de Dieu »
et... La table des matières indique que je l'ai devant moi, qu'il y a la première partie intitulée « Spiritualité et psychologie ». Je crois que la psychologie est moderne, post-freudienne, si vous voulez, après Freud, peut aider beaucoup ceux qui s'intéressent à la spiritualité.
En quel sens?
Apporter beaucoup. Comment dirais-je? Des garde-fous. C'est-à-dire qu'on peut, dans la spiritualité, si on n'a pas le sens de la psychologie moderne, on peut aller dans... emprunter des chemins qui ne mènent nulle part. Dans cette partie-là, c'est justement situer le rôle de la psychologie. Vis-à-vis, par exemple, le désir humain, le salut chrétien. Est-ce qu'être adulte dans la foi, c'est important, c'est un idéal ambigu. Et finalement, le rigorisme et le laxisme comme deux extrêmes, et à l'intérieur, comme je te propose, c'est une radicalité. Alors, tout ça est dans une atmosphère psychologique. C'est la première partie. La deuxième partie, intitulée « Visage de l'expérience spirituelle », c'est des caractéristiques de l'expérience spirituelle. La place des images dans le langage sur Dieu. Ensuite, bouddhisme et christianisme, c'est là que je situe la différence entre les deux, mais aussi beaucoup de choses qui sont semblables. Ensuite, expérience de transcendance comme pré-mystique, ça c'est les expériences d'avoir le sens de l'infini. Le meilleur exemple, d'après les enquêtes faites en Grande-Bretagne, au Canada et aux États-Unis, je me suis renseigné là-dessus, c'est la naissance de l'enfant. Il y a quelque chose d'extraordinaire là qui nous dépasse. Et là, le baptême est souvent une célébration de l'essence de l'enfant. Il faut ajouter d'autres choses dans le baptême. Il y a aussi la libération du péché, mais il reste quand même qu'il faut célébrer la vie. La vie, dans le fond, si vous voulez, la vie du Christ ressuscité, qui est déjà, qui commence dans cet enfant-là.
Et puis vous avez...
Alors ça, c'est une expérience très mystique. Le coucher de soleil, un lever de soleil, à un moment donné, on a une espèce de... C'est stupéfait. Des fois, ici, j'en vois sur la rivière des Outaouais. Alors, c'est absolument extraordinaire. Ça nous coupe le souffle. Alors ça, c'est une expérience pré-mystique. C'est pas encore la mystique, mais c'est des choses qui ne durent pas longtemps. En général, c'est quelques minutes. Henri Suzo, un mystique, dit que ça dure 15 minutes, mais lui, c'est son expérience personnelle. Mais c'est sûr que, par exemple, moi, sur une pente de ski au lac Beauport, au nord de Québec, un jour, je suis arrivé, c'était à la fin de la journée, vers 4 heures, c'était la dernière montée. Puis quand je suis arrivé au sommet de la montagne, au lac Beauport, là, j'ai vu un coucher de soleil. C'était à l'infini. Alors, le sens d'une expérience de transcendance, une expérience de l'infini, quelque chose qui n'a pas de limite, qui nous touche.
Est-ce que ça pourrait rejoindre ce que certains jeunes disent, une expérience de plus grand que soi?
Ah oui, mais infiniment plus grand.
Mais infiniment plus grand.
On peut voir, par exemple, vous pouvez avoir un pianiste de concert. On sait, moi, j'ai étudié le piano. Bon, il est plus grand que moi. Hein? Bon, mais infiniment plus grand, là, c'est vraiment ce qui caractérise une expérience. Alors, j'ai un chapitre là-dessus et finalement, des méthodes pour méditer. Hein, voyez-vous, donc ça fait partie aussi de l'expérience spirituelle. C'est le dernier chapitre dans cette deuxième partie.
Et puis, vous faites dans la troisième partie présentation de mystique.
Au pluriel.
Oui,
j'en ai beaucoup, ils sont par ordre chronologique. Denis, le pseudo-réopagite, parfois on dit le pseudo-Denis, mais ce n'est pas le pseudo-Denis. Denis, c'était son nom, mais il n'était pas un membre de la réopagite. Il a écrit au début du 6e siècle, tandis que le Denis, membre de la réopagite, il était parmi ceux qui ont entendu Saint-Paul au 1er siècle. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Ça a été un malentendu qui a fait que Denis... Pour les pères de l'Église, pour les médiévaux, parce que Denis, il a écrit au 6e siècle, ça a été le grand guide pour tous les gens du Moyen Âge. Il pensait que c'était le disciple direct de Paul. Ça lui donnait une autorité. Or, on a une culture où l'autorité spirituelle et intellectuelle au Moyen Âge était très, très importante, plus qu'au temps moderne. Alors donc, lui, il est là. Ensuite, Thomas d'Aquin, un mystique objectif, c'était une conférence qui m'a été demandée par les sulpiciens de Montréal, mais qui, je ne l'ai jamais donnée. J'avais dit, je ne peux pas aller là l'hiver avec les chemins, etc., puis il faudrait décommander finalement. Mais j'ai écrit, et puis j'ai retravaillé ça, et c'est devenu Thomas d'Aquin. Alors, les autres, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais vous avez Maître Eckhart, c'est celui sur lequel j'ai mis le plus de temps comme mystique dans ma vie. Un dominicain aussi, un Allemand, du début du 14e siècle. Ensuite, des quelques parents du Maître Eckhart, ce sont ses disciples. Une femme mystique, une béguine, c'est-à-dire une femme non religieuse, mais vivant dans une communauté spontanée, mais pas sur la juridiction de l'Église catholique, Marguerite Porretta, elle a été brûlée. Alors, vous voyez comment c'était dangereux pour une femme et pour quelqu'un comme ça qui n'était pas une religieuse d'avoir des... Effectivement, elle a quelques idées qui sont, à mon avis, des erreurs. Mais pourquoi est-ce qu'on reprocherait à des gens de faire des erreurs? Même les théologiens, les philosophes, ils ont tous fait des erreurs. Moi-même aussi, je m'inclus. Henri Suzeau, Jean Tolard, ce sont les deux grands disciples de Maître Eckhart qui l'ont défendu. Parce que lui aussi était condamné, Maître Eckhart, à Avignon, où était le pape. Alors ensuite, Thérèse d'Avila, elle est bien connue, mystique de la quiétude. Jean de la Croix, un autre karma, mystique de la nuit. François de Sales, l'évêque de Genève, où il n'a jamais pu aller parce que les réformés, les calvinistes, n'en voulaient pas. Alors, il a vécu pas loin de Genève. Mystique de la douceur, c'est le plus équilibré de tous les mystiques occidentaux.
François de Sales.
Ah, je dirais, le plus profond, c'est Jean de la Croix. C'est très profond. Alors, il y en a pour tous les goûts dans mon livre. Et puis ensuite, finalement, le dernier, évidemment, la dernière, ce sont deux carmélites aussi, Thérèse de Lisieux ou Thérèse de l'Enfant Jésus et Élisabeth de la Trinité.
À question d'aujourd'hui, nous sommes en compagnie du frère Louis Roy, dominicain, qui a écrit « L'expérience de Dieu et la psychologie de la mystique ». Et je me suis surtout intéressée, frère Louis Roy, au chapitre 3 de votre ouvrage, bien que j'ai lu tout l'ouvrage, et vous écrivez que vous essayez de faire des liens entre la croissance humaine et le salut chrétien, mais vous dites qu'on a tort de penser que ces deux manières, donc se préoccuper de sa croissance personnelle humaine, et le salut chrétien, vous dites qu'on a tort de penser que ces deux manières convergent harmonieusement. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Il y a des gens, des bien intentionnés, et qui disent que une approche psychologique de la croissance humaine doit être rejetée par ceux qui acceptent le Christ comme leur sauveur, le salut chrétien. Alors, c'est ça le problème que j'ai rencontré. Je me rappelle une jeune femme un jour dans la région de Montréal qui défendait ce point de vue-là. Et puis, je lui ai dit, mais Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin, il a quand même pris beaucoup de choses à propos de la croissance humaine chez Aristote. Le salut chrétien, c'est beaucoup plus que la croissance humaine. Alors, c'est ça la distinction. Et puis que... Il ne faudrait pas mettre un accent énorme sur la croissance humaine. J'ai connu des étudiants et des étudiantes à l'Institut pastoral où j'enseignais pendant 7 ans qui vraiment mettaient vraiment leur espoir dans la psychologie de la croissance humaine, avec des méthodes que je respecte et puis... Mais j'ai déjà eu des différends avec certains des professeurs non dominicains à l'Institut pastoral, puis on a écrit là-dessus. Alors, c'est ça qui a donné un premier écrit de moi. Ensuite, quelqu'un qui m'a donné la réplique, qui était un ami. Donc, on a pris un repas on est encore amis, mais alors on a fait quelque chose, on a publié. Dans la vie des communautés religieuses, on a communiqué mon article et sa réplique. Et ma réplique à sa réplique.
Alors, il y a du dialogue, mais comment voir à ce moment-là? Est-ce que pour un croyant, d'accueillir le salut du Christ et de voir à sa croissance personnelle, ça doit marcher main dans la main? Comment il faut voir ça? Ça peut.
Mais pas nécessairement. Si on met l'accent sur l'un ou l'autre de ses désirs, ça ne marchera pas ensemble, un accent excessif. Le lien avec Dieu qui est donné par le Christ, d'une part, et d'autre part, la croissance humaine en passant. Quand j'ai enseigné pour la première fois à l'Institut pastoral un cours de 15 heures qui s'appelait « Le plaisir, une réalité ambiguë », ça m'avait été demandé. J'étais à Québec. Puis, après ça, j'ai fait « Se réaliser et suivre Jésus, est-ce possible ?» J'ai changé le nom. titre. Là, j'étais rendu professeur à l'Institut pastoral. J'avais déménagé à Montréal. Et puis, au début, dans ces premières versions du cours, je pensais que ce qui était le plus important, c'était « se réaliser ». Voyez-vous, le titre du cours était devenu « se réaliser et suivre Jésus, est-ce possible? »
Bon, très bonne question. Et.
Alors, je disais, on commence par vouloir se réaliser. Et puis, c'est suivre Jésus, ça vient en deuxième temps. Mais il y avait un frère enseignant, assez mature, qui, lui, était le seul dans le groupe qui avait dit non. On commence par la relation avec le Christ. À un moment donné, je me suis dit, c'est lui qui a raison.
Alors, voyez-vous, c'est intéressant parce que vous avez des dialogues et ça vous amène vous-même à évoluer dans votre réflexion.
Mon premier livre, c'était « La foi en quête de cohérence hein, » chez Bellarmine. Et puis, il a été... finalement, ils ont tout vendu, Bellarmine. Puis ensuite, Novalis, qui était basé à Ottawa à ce moment-là, Novalis francophone, il vient, m'a dit, on veut faire une deuxième impression. Et Bellarmine ne voulait pas faire une deuxième impression. Alors, donc je les ai rencontrés à Ottawa, et puis ils m'ont dit, accepteriez-vous un autre titre? Votre livre est un livre de dialogue. Puis c'est vrai, il y avait des différents auteurs, etc., dont notamment des psychologues. Et alors, vous êtes un homme de dialogue, alors accepteriez-vous comme titre « La foi en dialogue ». Donc, évidemment, j'ai toujours été chanceux d'avoir des amis ou des gens que je connaissais qui n'étaient pas directement des amis intimes pour dialoguer et puis pour m'ouvrir.
On va revenir à votre livre, frère Louis Roy. Donc, vous parlez, il y a un chapitre fort intéressant, « Être adulte dans la foi ». Et ça, on se réfère à saint Paul, hein, quand on parle de ça. Vous abordez ça et vous définissez trois attitudes religieuses. Et j'aimerais vraiment qu'on creuse ça ensemble. L'infantilisme religieux, l'idéal du croyant adulte et l'entière ouverture à la dialectique du péché et de la grâce. Alors, on a beaucoup à éclaircir là-dedans. D'abord, comment vous définissez l'infantilisme religieux?
C'est l'opposé du croyant adulte. Saint Paul dit ça, hein, à un moment donné, je vous donne seulement du petit lait, comme à des bébés, parce que vous n'êtes pas encore adulte. Vous n'êtes pas capable de prendre la nourriture adulte. Parce que c'est ce qui arrive au bébé, hein, il boit du lait, seulement ça, puis à un moment donné, tranquillement, il va y avoir une purée, quelque chose, hein, avec la cuillère qu'on lui donne. Alors, c'est ça. Alors, l'infantilisme religieux, c'est de demeurer dans cette attitude-là, où on n'a pas connu une maturation, atteint une maturité. Alors, le croyant adulte, c'est celui, justement, qui va tenir compte, d'après moi, de la psychologie. Il y a de l'infantilisme un peu partout, et puis on peut vivre en étant adulte ce que j'ai appelé une dialectique du péché et de la grâce.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que ça veut dire que on doit tenir compte dans notre croissance et à la fois humaine et dans le salut chrétien, qu'on est à la fois pécheur, pécheresse et à la fois aimé profondément, radicalement par Dieu et que c'est cette grâce-là qu'il nous fait? Est-ce qu'on doit tenir compte des deux?
Oui, oui, oui. Celui qui l'a vécu le plus clairement dans les auteurs du Nouveau Testament, c'est saint Paul. Il parlait d'une écharde dans sa chair. Puis alors, il y a eu beaucoup de spéculations là-dessus. Hein. Oui. Les exégètes, finalement, on ne le sait pas. Il n'a pas dit qu'est-ce que c'était. Donc, il a vécu ça, mais il y a eu une écharde, et puis il y a eu ses problèmes, et puis il y a eu aussi beaucoup d'épreuves. Donc, il y avait la grâce. Et il reste quelque chose de pécheur dans saint Paul. Dialectique, ça veut dire une espèce d'opposition, puis une dialectique peut être conduire à une certaine synthèse Ah, l'idée de synthétiser ça. Alors donc, c'est un peu ça la dialectique du fait on reste pécheur, mais la tentation, c'est de penser qu'on ne peut pas évoluer. Non, la grâce de Dieu est là, le Saint-Esprit nous fait évoluer, mais il y a des choses qui restent. Par exemple, moi, je suis conscient qu'il y a des tendances qui me nuisent, qui s'affaiblissent. Mais je pense que jusqu'à ma mort, je vais être pris avec ça. Alors, il faut être patient, puis c'est une manière aussi de grandir. C'est une espèce d'humilité. Et c'est simplement dans la résurrection, après notre mort, qu'on va finalement être complètement libéré.
Frère Louis Roy, je pense que vous avez le mot « une humilité ». Donc, de découvrir qu'on reste faible dans la foi, faible dans notre vie, mais de ne pas en faire, si je comprends bien, que ça nous décourage de croire en la grâce de Dieu.
Exact.
Est-ce que je comprends bien ce que vous dites?
Oui.
Est-ce que vous diriez qu'on doit, et peut-être en vieillissant, on le découvre aussi, qu'on doit faire encore plus de place à cette grâce-là?
Oui. Oui.
Et comment on peut faire plus de place à cette grâce de Dieu dans notre vie?
Bien, Saint Jean dit, dans sa première épître, il dit que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Ben, il faut toujours revenir à ça. Bon. Et alors nous pouvons recevoir cette bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais aussi prendre conscience, immédiatement, nous pouvons répondre à cet amour. Alors, nous aussi, nous sommes capables d'aimer Dieu comme il nous a aimés, mais c'est toujours lui qui a la priorité.
C'est vraiment formidable. Merci beaucoup. Écoutez, frère Louis Roy, ce n'est pas notre dernière émission. On va se retrouver la semaine prochaine pour la seconde émission, parce que c'est très intéressant, l'expérience de Dieu, de la psychologie à la mystique, qui est publiée chez Médiapol. L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lisandre Duplé pour Radio VM. Merci d'avoir été avec nous. Je m'appelle Renaud Grégoire et je vous dis à bientôt.